Voici la revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
L'information que vous avez choisi d'évoquer ce matin aurait pu n'avoir rien à voir avec le coronavirus.
Ouais, c'est vrai qu'elle aurait pu. Et pourtant, vous allez le comprendre, au final, elle nous confirme que la pandémie est décidément partout et s'immisce dans quasiment toutes les histoires du monde en ce moment. Nous lisons donc ce matin la Dhaka Tribune, quotidien anglophone de la capitale du Bangladesh, laquelle nous apprend que les gardes-côtes de la région de Teknaf, à l'extrême sud du pays, ont secouru hier un bateau de pêche en perdition à bord. Eh bien, ils ont découvert une situation effroyable. Plus de 400 exilés Rohingyas de Birmanie, entassés, exténués, affamés, assoiffés, et pour cause, ils venaient de passer 2 mois à dériver dans le golfe de Bengale. The Dhaka Tribune nous en dit plus sur leur itinéraire. Ils étaient partis de ces mêmes côtes bangladaises où ils vivaient dans des camps de réfugiés, après avoir fui comme 1 million d'autres les persécutions dans leur pays d'origine. Ces Rohingyas avaient navigué sur plus de 2000 kilomètres pour tenter d'accoster en Malaisie, où ils pensaient trouver refuge, mais pour cause de mesures de précaution face à l'épidémie de Covid-19, nous y voilà, la Malaisie les a refusés, ports fermés, et les a laissés ensuite dériver sans but, se perdre dans le désert marin sans nulle part où débarquer, et sans plus rien à boire ou à manger pendant donc 2 mois. Ce matin, l'agence Reuters confirme ce que l'on pouvait craindre. Il y avait une 30aine de morts à bord de ce radeau de la Méduse Rohingya quand les gardes-côtes bangladais sont montés à bord.
Quant aux 382 survivants, pour eux, c'est le retour à la case départ, voire pire.
Oui, sur des photos postées en ligne par un journaliste local et décrites par The Guardian, on voit que ce sont surtout des femmes, jeunes et des enfants qui ont été débarqués par les autorités bangladaises et traités comme des pestiférés par crainte bien sûr qu'ils soient porteurs du coronavirus. Les gardes-côtes expliquent qu'ils ne leur ont même pas parlé pour ne pas risquer d'être contaminés. Ces boat people version 2020 ne sont en tout cas pas au bout de leur peine. Reuters nous livre l'épilogue de cette tragique histoire. Le Bangladesh a décidé de les renvoyer non pas dans les camps d'où ils viennent sur son propre territoire, mais dans leur pays d'origine, la Birmanie, où la minorité Rohingya, minorité musulmane, reste persécutée.
Et puis nous sommes à présent en Afrique du Sud, où le président Cyril Ramaphosa est face à une grande décision.
Oui, une grande décision qui sera rendue avant le week-end, affirme The South African. Elle concernera l'un des débats qui agitent le pays, confiné depuis maintenant 3 semaines. Faut-il ou non lever l'interdiction totale de vente d'alcool et de cigarettes en Afrique du Sud? En la matière, c'est vrai que le pays figure parmi les plus intransigeants sur la planète depuis donc le début de son confinement le 26 mars. 3 semaines après, une organisation de cafetiers et de vendeurs d'alcool sud-africains demande la levée de cette interdiction, menaçant de porter l'affaire en justice. Il faut dire qu'elle est très controversée, cette mesure très ambivalente, c'est vrai, tant elle ne propose aucune solution aux personnes dépendantes, elle ouvre la voie aussi à une possible augmentation des violences sociales et domestiques, et elle donne lieu à un intense marché noir selon le journal The Namibian. Ce week-end, on a même arrêté des policiers sud-africains qui étaient à la tête d'un réseau de trafic d'alcool.
Oui, mais en même temps, l'Organisation mondiale de la santé recommande vivement aux États de restreindre l'accès à l'alcool en ces temps de pandémie.
Oui, c'est une recommandation de l'OMS lue ce matin sur le site notamment de la chaîne américaine CNBC, où l'on nous explique que la consommation d'alcool peut considérablement alourdir les effets du coronavirus sur l'organisme, et puis également d'un point de vue plus social compliquer le respect des mesures barrières. Pour revenir à l'Afrique du Sud, sous la pression donc du lobby des vendeurs d'alcool, Cyril Ramaphosa doit trancher le débat. Il le fera demain, croit savoir The Times, selon qui l'affaire est tellement épineuse que le président a repoussé le délai de réponse de quelques jours pour prendre un maximum d'avis. Avis scientifique, bien sûr, mais aussi économique, car c'est sur les conséquences pour les vendeurs d'alcool que le lobby conteste l'interdiction. D'un point de vue d'économiste, donc, le site d'info Fin24 estime peu probable que l'interdiction soit levée, car l'alcool ne saurait être considéré comme un bien essentiel et que le manque à gagner, les risques de faillite invoqués par les gérants de débit de boissons ne sont pas spécifiques à cette profession. Tous les autres commerçants sud-africains sont touchés par la fermeture de leur boutique et eux n'ont pas de traitement de faveur. Fin24 ajoute aussi, bien entendu, que le fait de rouvrir ces débits de boissons ne ferait qu'aggraver les problèmes sociaux que connaît le pays, où l'alcoolisme, il faut bien le dire, est un fléau et entraîne beaucoup d'autres conséquences incompatibles avec un confinement efficace. On verra donc ce qui primera en Afrique du Sud entre la santé publique, la paix sociale et l'intérêt des lobbies. En tout cas, si l'on regarde ce qui se passe en Inde avec India Today, il y a de quoi être pessimiste. Le magazine de New Delhi constate que de nombreux États indiens lèvent les uns après les autres l'interdiction de vente d'alcool qui est imposée à tout le pays depuis également le début du confinement là-bas. Des États indiens qui expliquent qu'en Inde, l'alcool est légalement considéré comme de la nourriture et peut donc être considéré sans distinction comme un bien de première nécessité. Et puis des États qui disent aussi qu'il faut rouvrir les débits de boissons pour freiner l'augmentation des cas de suicide attribués aux personnes dépendantes en manque. Mais India Today ne se fait aucune illusion sur les motivations réelles de tous ces États indiens. Les taxes sur les ventes d'alcool représentent un quart, nous dit-on, de leurs recettes totales.